Monsieur Montmerle, bonsoir.
Bonsoir.
Alors d'abord, vous allez parler de phénomènes à haute énergie dont vous êtes devenu un des grands spécialistes. De quoi s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la nature de ces phénomènes?
Écoutez, ce qu'on appelle aujourd'hui les hautes énergies en astrophysique est à la fois une histoire ancienne et récente. D'abord, il faut se replonger dans la physique en général. Les hautes énergies en physique, c'est tout ce qui concerne la physique des particules, la physique des atomes, en fait de la physique qu'on fait bien souvent au laboratoire dans des accélérateurs. On accélère des particules, on accélère des électrons, on produit des rayonnements X, des rayonnements gamma, etc.
Ce qu'on appelle aujourd'hui les collisionneurs, non, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Disons que les hautes énergies dont je vais parler ne sont pas aussi élevées que celles qu'on obtient dans les collisionneurs, mais disons c'est plutôt de la physique telle qu'on l'a fait au laboratoire ou dans des grandes installations comme le SRF à Grenoble, bientôt peut-être Soleil, en face des fenêtres de mon bureau à Saclay, c'est-à-dire des rayons X assez énergétiques, mais qui sont aussi produits par des électrons et du rayonnement cosmique. Voilà un petit peu le contexte. Donc c'est au départ un contexte de physique.
Alors effectivement, vous étudiez des phénomènes naturels plutôt que des phénomènes produits en laboratoire, bien sûr.
Oui, tout à fait. Donc ce sont, si vous voulez, c'est la rencontre entre cette physique-là et l'astronomie, je dirais, plus traditionnelle. C'est-à-dire que l'astronomie, ce que j'appelle l'astronomie traditionnelle ici, dans un sens qui n'est pas du tout péjoratif, mais disons plutôt historique, c'est l'astronomie optique avec les grands télescopes, c'est aussi la radioastronomie quelque part, c'est un petit peu l'astronomie infrarouge dont je parlerai pas mal dans la conférence, parce qu'il faut quand même comprendre, donner un sens astronomique à ces hautes énergies, mais c'est surtout l'émergence de l'astronomie spatiale, parce qu'on peut faire des hautes énergies en astronomie qu'en utilisant des moyens spatiaux.
Très bien. Et en fait, ces phénomènes sont produits par quoi dans la nature? Là, vous avez parlé, bon, en laboratoire, on peut les provoquer. Et dans la nature, en astronomie, dans les astres, par quels astres et par quelle partie des astres sont-ils produits, ces phénomènes?
Alors, vous avez grosso modo deux grandes familles de phénomènes à haute énergie. Les phénomènes qu'on appelle thermiques, c'est-à-dire qui sont produits, je dirais pour simplifier, par des températures extrêmement élevées, de l'ordre de millions de degrés à la centaine de millions de degrés. Ça, il y a beaucoup d'objets en astrophysique qui émettent ça, à commencer par les étoiles, dont je parlerai beaucoup ce soir. Mais vous avez aussi les amas de galaxies, par exemple, qui sont les plus grandes structures de l'univers, qui ont des températures de l'ordre de 100 millions de degrés, c'est-à-dire des volumes de gaz absolument énormes. Donc ça, ce sont des matériaux qui sont chauffés. On les appelle thermiques parce qu'ils sont chauffés. Alors ils peuvent être chauffés par toute une variété de phénomènes, des ondes de choc, par exemple dans les étoiles et dans le Soleil, ce sont des phénomènes magnétiques qui fournissent l'énergie qui chauffe les gaz. Dans les amas de galaxies, c'est plutôt les galaxies qui parcourent à toute vitesse le gaz entre les galaxies. Donc vous avez des mécanismes de chauffage, un petit peu comme être au coin du feu, mais évidemment c'est beaucoup plus efficace et beaucoup plus violent. Mais vous avez à côté de ça toute une grande famille de phénomènes de haute énergie qui sont les phénomènes dits non thermiques, c'est-à-dire qui ne résultent pas de processus de chauffage au sens où je l'ai défini, mais plutôt de processus d'accélération de particules. C'est-à-dire que là vous avez des phénomènes tout à fait particulier, où les particules ne peuvent pas se réduire à une température. On ne peut pas leur donner une température, on leur donne bien souvent une énergie et ce qu'on appelle un spectre d'énergie, c'est-à-dire une répartition d'énergie qui est tout à fait différente de celle des phénomènes thermiques. Et là, vous avez d'autres phénomènes, des ondes de choc, vous avez des phénomènes d'accrétion, par exemple, dans les trous noirs ou les étoiles à neutrons, quand vous avez un disque qu'on appelle un disque d'accrétion, c'est la matière qui se précipite à l'intérieur, elle se précipite tellement violemment qu'à ce moment-là, vous avez des ondes de choc qui peuvent accélérer des particules. Et quand je dis particules, c'est la plupart du temps des électrons qui sont portés à des énergies ultra-relativistes. Donc c'est un autre domaine, c'est la deuxième famille. Mais évidemment, dans la mesure où sur le plan de l'astronomie, vous détectez de la lumière, vous détectez des photons, des grains de lumière, les techniques sont les mêmes, mais vous avez des moyens de distinguer les deux grandes familles les unes des autres.
Et alors qu'est-ce qui vous a conduit à vous passionner pour ce genre de phénomène dans votre carrière, dans votre passion? Parce que la carrière d'astronome ne peut pas être exempte de passion.
Absolument. Alors c'est un cheminement assez drôle finalement qui partait de travaux finalement très abstraits que j'avais commencé à faire avec Evry Schatzman et Jean-Claude Péquer du reste, qui consistait à être faire de la cosmologie, c'est-à-dire la connaissance de l'univers à partir de modèles où il y avait des annihilations entre matière et antimatière. Alors ça paraissait très exotique, mais à l'époque c'était quelque chose qui était très, dont je parle dans les années 70 là. C'était très étudié notamment au CERN, là où on fait les grands accélérateurs de particules. Et la raison en était que dans l'univers, on venait de découvrir des rayonnements gamma, donc à très haute énergie, une espèce de ce qu'on appelle le fond diffus, c'est-à-dire que l'univers dans son ensemble, sans qu'on puisse parler de source, émettait du rayonnement gamma. Et une façon de le produire, c'était matière-antimatière.
Ce rayonnement gamma, c'est ce qu'on appelle le rayonnement fossile à 3 Kelvin ?
Alors, il y avait peut-être à l'époque, dans les théories qui étaient en vogue, qui ne le sont plus actuellement, hein, je vous le précise tout de suite, c'était une forme de fond diffus. C'est-à-dire que le rayonnement fossile à 3 degrés K, c'était aussi le reste de la formation des galaxies, disons, à des décalages valeureux extrêmement élevés. Là, ce rayonnement gamma aurait eu lieu, dans ce cadre de ces théories, beaucoup plus tard, mais encore très tôt par rapport à nous, c'est-à-dire dans les premières minutes qui ont suivi la création de l'univers. Et donc, à partir de ça, c'était, disons, mon introduction au monde des hautes énergies. Bon, finalement, je trouvais ça, d'abord, ce genre de théorie n'a pas été vraiment vérifié par l'observation, donc ça m'intéressait moins. C'était devenu un petit peu abstrait, un petit peu sec, bien que l'exercice intellectuel ait été intéressant.
Un petit peu spéculatif, en quelque sorte.
Disons, un petit peu spéculatif à la mesure des observations très rares et très difficiles qu'on avait à l'époque. Alors, petit à petit, je me suis orienté, alors là, c'était sous l'impulsion d'Hubert Reeves, par l'explication de certains phénomènes qui aura pu avoir lieu aussi en cosmologie dans des interactions de particules, alors cette fois-ci dont la signature aurait été des raies d'émission gamma, enfin là encore des choses un petit peu spéculatives mais peut-être un tout petit peu moins, et liées à l'origine des éléments légers qui à l'époque était une des grands sujets qu'Hubert étudiait. Et puis petit à petit, tout en étant avec cette familiarité avec les expériences spatiales, avec le rayonnement gamma, on en est venu à s'intéresser à ce qui se passait dans notre galaxie, parce qu'en même temps, les satellites montraient que notre propre galaxie était émetteur de rayons gamma. Et c'est en cherchant l'explication d'une source gamma située dans la constellation d'Ophiuchus, à côté d'Antares, que le déclic s'est fait et qu'en prenant des rayons X pour essayer d'identifier les sources, on a découvert ces fameuses étoiles jeunes émettrices de rayons X. Et disons que là, c'était vraiment un tournant, parce que là, on avait des observations précises, extrêmement nouvelles, tout à fait fascinantes. Et c'était vraiment une découverte, et donc ça a finalement été la chose que j'ai fait. Donc d'une certaine façon, j'ai suivi un chemin qui est tout à fait à l'envers de beaucoup de gens qui partent, disons, du voisinage du Soleil ou des étoiles, et puis ensuite qui petit à petit vont vers la cosmologie, vont l'univers, donc suivent l'expansion de l'univers en quelque sorte. Moi, j'ai fait le contraire. Je suis arrivé vers des choses de plus en plus proches, et vous verrez que ce soir, je vous parle même de mes théories, c'est-à-dire vraiment ce qui est des choses qu'on peut ramasser dans les champs, avec un peu de chance, bien sûr, et je vais vous montrer la filiation qui peut y avoir avec ces phénomènes à haute énergie dans les étoiles jeunes.
Ce qui prouve une fois de plus qu'on peut très bien étudier des choses qui paraissent banales pour parvenir à des connaissances tout à fait fondamentales qui concernent l'ensemble de l'univers.
Alors, voilà, donc vous voyez ce chemin est un petit peu bizarre, mais enfin il faut bien reconnaître que c'est pas seulement une vue de l'esprit ou quelque chose, une démarche intellectuelle, je dirais, profonde et mystique. Hein. C'était vraiment suivre d'au plus près les progrès des observations qui nous menaient un petit peu par le bout du nez pour nous mettre sur le doigt sur des phénomènes de plus en plus précis, de plus en plus concrets d'une certaine façon, et trouver des sources et des choses comme ça. Donc c'était vraiment en parallèle avec les découvertes observationnelles.
Ce qui m'amène à ma question, effectivement, est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui qu'autrefois ? Je suppose que oui. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Est-ce que c'est très récent ? Est-ce que, notamment le satellite Hubble, est-ce qu'il nous a beaucoup apporté dans ces domaines-là ? Et d'autres, bien sûr, tous les satellites qui mesurent tous ces rayonnements ultraviolets, infrarouges, etc. Avant cela, juste, j'aimerais que vous me précisiez, ces rayons X sont produits par les étoiles, je crois, elles-mêmes, alors que d'autres rayonnements sont produits par les enveloppes.
Voilà, alors donc là c'est une sorte de sous-famille de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire que les étoiles et les étoiles jeunes en particulier produisent des rayons X un petit peu à la façon du Soleil, et je vais passer un petit peu de temps pour expliquer d'où viennent les rayons X du Soleil, qui ont été en fait les premiers historiquement à être découverts, et ça remonte juste après la Deuxième Guerre mondiale avec des expériences en fusée. Donc en fait c'est une expérience assez ancienne mais qui avait été faite à l'origine par des physiciens et non pas des astronomes, ça a mis beaucoup de temps à pénétrer la communauté des astronomes, et puis dans les proto-étoiles, alors il y a des phénomènes supplémentaires qui peuvent se produire, alors qui ont lieu, mais qui sont toujours des phénomènes, à notre avis, d'origine magnétique, c'est-à-dire un petit peu en imaginant que le champ magnétique soit composé d'élastiques, disons des élastiques qui claquent les uns après les autres parce qu'ils sont tirés par de la matière en effondrement.
Alors effectivement, donc poursuivons la question que je vous avais posée donc juste avant. Comment est-ce qu'on mesure ces rayonnements ? Est-ce que maintenant on a des moyens de détection bien plus puissants ? Est-ce qu'on a appris beaucoup de choses dans la dernière ou dans les deux dernières décennies, par exemple ?
Alors, on a appris énormément de choses à partir du moment où on a pu aller dans l'espace. Disons que ça, c'est un des, je pense que c'est le premier, la première étape. Disons, lorsqu'on parle de rayons X et même de rayons gamma, on ne peut pas le faire du sol. Il n'y a aucun moyen de le faire du sol. Hubble est un cas un petit peu particulier. C'est-à-dire que la raison pour aller dans l'espace n'était pas liée au fait qu'on ne voit pas, on ne voit pas le visible du sol, puisque bien sûr, on en fait l'expérience tous les jours, on peut voir le visible, mais on sait que l'atmosphère produit des turbulences, et donc le but, c'était d'aller dans l'espace pour s'affranchir de ces turbulences. Bon, maintenant, l'ironie de la technologie fait que les grands observatoires au sol comme le VLT ou ces énormes ou le Keck à Hawaï sont munis de dispositifs de correction de la turbulence atmosphérique qui font que maintenant, disons, le télescope Hubble et les grands télescopes au sol sont assez compétitifs dans un certain nombre de domaines. Mais il reste des domaines qui sont difficiles, voire impossibles à étudier du sol. L'infrarouge en est un autre, du reste. Et donc, on peut dire que c'est l'astronomie spatiale qui a véritablement ouvert des fenêtres entièrement nouvelles à l'astronomie. Et il y a encore des fenêtres qui sont fermées. Par exemple, dans l'infrarouge lointain, on se prépare, et dans mon laboratoire à Saclay, par exemple, on se prépare à lancer un satellite en 2007 qui sera consacré à l'infrarouge lointain dans un domaine spectral qui est complètement absorbé par l'atmosphère. Donc là encore, on a ce problème soit d'absorption, comme les rayons X ou gamma, soit même d'émission, c'est-à-dire dans l'infrarouge proche, par exemple, à quelques microns, disons l'infrarouge que vous utilisez pour essayer de percer le brouillard, par exemple, eh bien l'atmosphère elle-même est trop chaude, elle émet dans ces rayons-là, donc on est ébloui par le ciel et on a beaucoup de mal à voir les sources au travers. Donc c'est pour des raisons qui sont quelquefois toujours un petit peu différentes, mais qui ont tout autre trait à la présence de l'atmosphère. Alors évidemment, l'ironie du sort consiste à dire l'atmosphère est un problème pour les astronomes. Bon, il ne faut pas oublier quand même que les astronomes respirent comme tout le monde et qu'on a quand même besoin d'atmosphère. Mais disons qu'on essaie de se donner les moyens de s'en affranchir autant de faire se peut, et il y a des domaines bien spécifiques dans lesquels on a fait des progrès énormes grâce à ça.
Alors pour conclure, j'aimerais vous ramener un petit peu au sujet de votre conférence dont le titre est assez amusant. Vous l'avez choisi, Bébé Soleil. C'est un peu anthropomorphique, mais nous ne sommes pas dupes. Nous savons que les étoiles naissent. Bon, pourquoi pas parler de bébés, d'embryons ? Parce que non seulement, si on parle d'embryons, c'est bien parce que ça fait vraiment très peu de temps qu'on sait ce qui se passe dans les toutes premières phases de la vie des étoiles. C'est un petit peu de ça dont vous allez parler. C'est là qu'il y a des phénomènes extrêmement violents.
Voilà, alors ce sont des embryons qui remuent beaucoup. Disons que l'analogie est bien sûr anthropomorphique, c'est un clin d'œil, mais aussi ça représente un petit peu la proportion des âges et des durées de temps des phénomènes que je vais décrire. Les proto-étoiles, on appelle proto-étoiles des cocons dans lequel des objets sont en train de se condenser, sont en train de s'effondrer pour donner des étoiles. Et ça, c'est des objets qui ont 10 000 ans. Et ces 10 000 ans doivent se comparer aux milliards d'années, qui est l'échelle de temps de la vie du Soleil. Donc c'est extrêmement bref, donc l'analogie n'est pas complètement fausse. Disons, sur le plan mathématique, elle se défend assez. Et ensuite, on a des étoiles qu'on appelle Tétori, dont les âges sont plutôt de l'ordre du million d'années, donc encore un millième de leur vie future. Donc tout ça, ce sont des âges extrêmement précoces. Mais comme chacun sait, l'enfance est très turbulente et vous verrez que dans les étoiles jeunes, il se passe effectivement des tas de phénomènes qui sont très paradoxaux. Par exemple, le phénomène capital qu'on a découvert il y a maintenant une quinzaine d'années, c'est qu'on pensait naïvement, à l'instar de Laplace, que pour former une étoile, il fallait simplement trouver un moyen de rassembler de la matière dans les étoiles, ce qui n'est pas évident parce que comme elle tourne, la force centrifuge à une certaine limite, on voudrait plutôt à éjecter de la matière. Et là, on voit qu'il y a des phénomènes de jet, c'est-à-dire des phénomènes d'éjection très concentrés. Et donc, on arrive à ce paradoxe que pour former une étoile, il faut rassembler de la matière, mais pour rassembler de la matière, il faut en éjecter au moins une certaine proportion. Donc ça, c'est une découverte qui a complètement débloqué le problème de la formation de l'étoile, dans lequel il faut bien dire que même sur le plan théorique, on avait très très peu d'idées. Et là encore, c'est l'observation qui a déclenché les travaux théoriques. On n'avait pas, des idées théoriques très justes sur la formation des étoiles avant ces observations.
Ma petite question perfide pour finir, est-ce que d'étudier les jeunes étoiles, ça permet de rester jeune ?
Écoutez, je pense que d'écouter toutes les étoiles permet de rester jeune, même les vieilles. Les vieilles, je vous rappelle qu'elles explosent, qu'elles font des supernovas, qu'elles font des trous noirs, des étoiles à neutrons, tous sujets qui sont extrêmement chauds à l'heure actuelle. Et donc, on peut dire que l'astronomie crépite de plein d'objets. Mais c'est vrai que, disons, moi, ce qui m'attire pas mal dans cette étude des objets jeunes par rapport à d'autres sujets, c'est que c'est un petit peu la quête des origines. C'est la quête de l'origine du Soleil, du système solaire. Au-delà, c'est la quête de l'origine par les galaxies. Et au-delà, c'est la cosmologie et la formation de l'univers. Donc c'est toujours cette démarche un petit peu historique qui essaie de remonter autant que faire se peut le temps avec des moyens scientifiques concernant les étoiles.
Sans oublier que lorsque les étoiles explosent, elles éjectent leurs éléments et c'est à eux qu'on doit la vie.
Voilà, absolument. Il y a un recyclage de la matière et bien souvent, les étoiles en explosant en créent des nouvelles. Donc c'est vraiment une filiation. Et en ce sens, la métaphore de ce soir sur les bébés, les embryons, etc. évoque beaucoup le cycle de la vie, le cycle de la formation des étoiles. Et il y a vraiment effectivement une évolution qui se fait au fil des générations.
Donc les bébés humains naissent des bébés étoiles. Merci Thierry Montmerle.
Voilà, et on se rappellera par exemple la fameuse image de l'embryon cosmique de la fin du film 2001 de l'espace, si mystérieuse, mais qui est un petit peu symbolique aussi de ça.
Vous aurez donc le mot de la fin. Merci beaucoup.